Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous. Vous le savez, ici on chouchoute tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Alors ce matin Julia, on va parler de quoi ?
On va parler d'un sujet qui va vous plaire Mélanie, les vacances, et plus particulièrement les vacances d'été en famille. On les attend depuis toute l'année, on en a tellement rêvé, mais ce temps que l'on va avoir avec nos proches, c'est-à-dire 24 heures sur 24, ensemble tout le temps, nuit et jour avec mari et enfant, eh bien attention, ça peut parfois virer au cauchemar. Entre les plus jeunes qui demandent beaucoup d'attention, ceux qui voient les vacances différemment de leur conjoint, les disputes, la gestion des écrans, bref, on va vous armer aujourd'hui pour supporter vos êtres aimés lors de vos prochaines vacances. On le fera grâce au conseil de la psychologue Isabelle Payot ainsi que de ceux de Cécilia Como, psychanalyste et sexologue clinicienne.
Et puis, vous le savez, à 11h45, on fera notre éclairage habituel sur les tendances du moment avec Julien Soulier, ancien professeur de français. Vous verrez que l'orthographe, la bonne orthographe n'a jamais été aussi tendance. Il va nous expliquer ce matin pourquoi on prononce le mot monsieur et non monsieur, comme ça s'écrit en français. Monsieur Julien Soulier tirera ça au clair pour nous. Et pour finir, il y aura la chronique Tout en gourmandise de Margot Grossman. Aujourd'hui, elle va faire le point sur les alternatives au sucre à notre disposition. Il y en a de plus en plus, mais attention, ils ou elles ne se valent pas toutes. On fera le point.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, ravi d'être jusqu'à midi avec vous. Alors ce matin, on va se poser cette question. Comment ne pas s'entretuer en famille et en couple pendant les vacances ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même demander à notre cher Clément Lanoux ce qu'il en pense. Bonjour Clément.
Bonjour mesdames, j'espère que tout va bien. Effectivement, à quelques jours des vacances, il n'y a pas qu'à Noël qu'on peut s'embrouiller. Moi j'ai la solution, déjà je n'ai pas d'enfant, donc je vous conseillerais tout simplement pour ne pas vous embrouiller, de partir avec vos potes, car en famille, c'est très compliqué. J'ai pris une famille, non pas au hasard, j'ai sélectionné une famille que j'appellerais la famille parfaite. On la connaît tous, ces gens qui sont beaux, qui sont ensemble depuis 20 ans, qui respirent le bonheur, qui s'habillent pareil quand ils vont au ski ou alors à la plage même. Eh bien, cette famille parfaite, je l'ai décomposée, le papa, la maman, tel un jeu de cette famille, et puis les deux enfants, Charlize et Alban. Je les ai interrogés séparément et je leur ai posé la question. On commence avec le papa. Si je demande au papa comment ne pas s'entretuer en partant en vacances en famille.
Partir sans ma belle-mère.
Voilà. Oui, c'est bien,
c'est
ça.
Clairement, on a ciblé le problème. Pour lui, ça vient de là-bas. Si je demande maintenant à la maman, est-ce qu'elle a un petit conseil que vous pourrez appliquer ?
Partir dans une immense maison, chacun sa pièce. Comme ça, on ne se voit pas, on ne se tue pas.
Ça, okay. Je prends le bon conseil. Prendre une maison avec plusieurs chambres. Plus il y a d'espace, plus on peut se faire la tête chacun de son côté, c'est pas mal. Et puis Charlize, la fille de cette famille, a une bonne technique aussi.
Bah moi, quand je pars en vacances avec ma famille, je me fais toujours une bande de potes à côté, comme ça, bah, je pars avec eux.
Ah, c'est beau la famille. Pour l'instant, le seul conseil, c'est éloignez-vous les uns des autres.
Quoi,
exactement. Et puis peut-être que le petit dernier, tout jeune, a peut-être un petit conseil. Comment on fait pour ne pas s'entretuer ?
Partir sans ma mère.
Partir sans ma mère, voilà. Attention, c'est violent. L'humour macho, ça se transmet aussi vite que le Covid, donc faites attention à l'éducation. Avant de vous quitter, j'ai quand même quelques petits conseils. Ce que je vous conseille, c'est de partir jamais plus de 10 jours. Ça, c'est un vrai truc. On a vu ce que ça a donné pendant le confinement, d'être ensemble, explosion des divorces. Deuxième conseil, si vous avez des ados, et je sais que c'est votre cas, Mélanie, puisqu'il y a quelques minutes avant de prendre l'antenne, vous avez dit, tiens, j'espère que mon fils ne va pas écouter cette émission, parce que partir avec lui en vacances, ça ne va pas être simple. Le conseil que je donne aux parents qui ont des ados, c'est prendre un endroit où il y a du réseau et il y a du Wi-Fi. Déjà, ça calmera un peu les tensions. Et puis, je vous le disais, partir avec des amis, en plus de votre famille, ça repousse les disputes. Vous savez, quand on commence à avoir le ton qui monte devant les invités, on est toujours « non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Vous vous engueulerez plus tard. Et enfin, avant de vous quitter, j'ai donc les sujets à ne pas aborder pour ne pas se fâcher en famille. Notez bien, politique, vaccin, équipe de foot préférée, les horaires du dîner, la belle famille, la jalousie, l'argent, la météo, le ménage, la pétanque, les animaux domestiques, Poutine, la prise de poids, les courses, la vaisselle, les ex, la cuisson du pain, les programmes télé, les parties de ping-pong. Non, ce qu'on va faire, non, ça va être trop long. Je vais donner juste ceux qu'il reste. Le badminton et les frites. C'est les deux trucs où apparemment tout le monde est plutôt d'accord. Les frites, c'est délicieux. Et le badminton, c'est pas ouf.
C'est pas dangereux. Merci beaucoup, Clément. Allez.
Je vous en prie. J'espère vous avoir aidé. Hein.
Ah, bah là, ouais, on est bien. On est paré. Merci, Clément. Allez, c'est parti pour la paix des ménages et la paix en famille. C'est le programme que l'on vous souhaite si vous avez prévu de prendre quelques congés durant l'été. Alors, pour nous conseiller en studio ce matin, il y a déjà vous, Cécilia Como. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple et sexologue clinicienne. Vous êtes également l'auteur du livre Le couple parfait n'existe pas. paru chez Flammarion. Avec nous également Isabelle Payot. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue, dirigeante de la Fabrique à Bonheur et l'auteur du livre « J'élève mon enfant du mieux que je peux » aux éditions Erol. Donc tout est bon. Allez Isabelle, on a tous et toutes, croisé cette famille sur la plage où tout le monde s'engueule. Personne n'a envie d'être cette famille évidemment. Est-ce que les conflits pendant les vacances, c'est un moment... parce que finalement, les vacances, tout est réuni pour qu'on se dispute, quoi.
Oui, il y a déjà un mythe qui est qu'on croit que quand on va arriver en vacances, tout d'un coup, il va y avoir de la poudre magique qui va nous tomber dessus, des petits lutins, tout va être très sympa, une jolie musique, un peu comme dans les comédies romantiques, là. Mais en fait, on se déplace simplement, on change de lieu. Mmh. Et on va changer de lieu et on va être tous ensemble 24 heures sur 24, donc ça va être ça va commencer à se compliquer. Donc si on n'a pas prévu ça avant, c'est pas parce qu'on va sur un lieu de vacances, même idyllique, que tout d'un coup on va être détendu, zen, aimable, et qu'on n'a pas des dossiers, des sujets d'engueulade potentiels qui sont là et qui ne sont pas restés ni dans la voiture ni dans l'avion.
Oui, mais Isabelle, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on s'entend mieux en famille, justement en vacances, plutôt qu'au milieu du métro boulot dodo? Est-ce que quand même... On met toutes les chances de notre
elle
côté.
Elle veut rêver, Julia.
Bah, je me dis que s'il y a la mer pas loin, tout ça, même si c'est les mêmes problèmes, le fait de les déplacer, c'est la chanson d'Aznavour. Hein, c'est toujours mieux... Comment c'est quoi ?
La misère.
La misère.
Est toujours moins pénible.
Libre au soleil, exactement.
Alors oui, les conditions, elles peuvent être idéales, parce qu'il y a la mer pas loin, parce qu'on est... voilà, c'est sympa, on n'est pas sur le même rythme. Donc ce rythme-là, ça va franchement aider à se détendre. Mais au départ, quand on arrive, on n'est pas détendu. Et il va falloir quand même peut-être fixer des règles et voir ensemble comment faire pour que ça se passe bien. Ce n'est pas magique, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir que chacun y mette un peu du sien.
Il faut parfois quelques jours pour justement installer les bonnes règles. Cécilia Como, c'est un bon moment les vacances pour se retrouver en couple. On a l'impression en tout cas comme ça que oui, hein, même s'il y a les enfants, les beaux-parents, ça peut compliquer un peu les choses. Mais pour le couple, quel est l'enjeu ?
Écoutez, hier, j'ai un couple qui m'annonçait qu'il partait en vacances demain. Donc je leur ai dit, c'est génial, vous allez en profiter. Et les deux ont explosé de rire en me disant, mais enfin Cécilia, on part avec les enfants. Donc c'est ça, voulait dire ce que ça voulait dire. Donc je pense que effectivement c'est compliqué. Ça dépend quand même énormément de l'âge des enfants, parce que dès que vous avez des enfants autonomes et qu'il y a, si vous vous êtes organisé, c'est vrai quand même, les gens qui ont des enfants font en sorte d'être dans des lieux camping ou club où il y aura d'autres
activités,
enfants. Exactement. Et puis comme ça, autonome, ça veut dire, comme on entendait la petite fille dans le reportage de Clément Lanoux, on se fait des amis. Quand ils ne sont pas autonomes, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part le fait que, pour le coup, il n'y a pas de travail. Mmh. Donc, effectivement, en termes de charge, il y a quelque chose qui s'allège. Pour certains, il y en a d'autres, c'est un peu comme les week-ends. Vous savez, c'est le moment le plus pénible de la semaine.
Mais oui, moi j'ai des copines qui rentrent de vacances épuisées, qui ont hâte de reprendre le travail.
Des copines, hein, comme par hasard, moi je dis rien.
Ouais. Non, bah bon, il est grand maintenant, vous pensez, mais effectivement, quand ils sont petits, ça peut être pénible. Et même, puisqu'on parle des enfants, quand on a un enfant ado, c'est pas mal aussi de l'emmener avec un copain en vacances, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve ça assez bien. Alors, pour vous le dire, je l'ai fait une fois.
Ouais.
Je trouve ça même génial.
Bah ouais,
parce que effectivement, c'est voilà. Ils s'occupent entre eux, ils prévoient des choses entre eux, ils vont à la plage entre eux. Donc effectivement, l'idée, c'est quand même de se rappeler que ça doit être les vacances de tout le monde, des enfants et des parents. Ce qui n'est pas souvent le cas. Moi, j'entends quand même beaucoup les gens organiser les vacances autour des enfants essentiellement.
C'est ce que je fais malheureusement. Je vais peut-être changer d'idée à la fin de l'émission. Cécilia, c'est vrai que la fin des vacances, c'est le moment où les ruptures dans les couples sont les plus fréquentes. J'ai entendu ça, mais je ne sais pas.
Alors, il paraît. Moi, je l'ai aussi entendu. Du coup, j'émets deux hypothèses. La première, c'est que je pense que beaucoup de gens attendent un renouveau, un peu comme disait Isabelle, des paillettes, quelque chose de magique, et puis ça n'arrive pas. Donc, il y a la déception au retour, et on clôt l'histoire en disant, bon, ben, là, il y a un signe. Le fait que les paillettes ne soient pas arrivées sont un signe. Et la deuxième chose que j'entends, c'est quand même qu'il y a des gens qui ont prévu une rupture, seul ou à deux. Je pense à un couple, mais qui par ailleurs ont aussi organisé des vacances. C'est très vrai quand on a des enfants et n'ont pas envie, en fait,
de gâcher ce moment.
Donc, ils décident qu'ils annonceront après les vacances qu'ils se séparent.
Bon, écoutez, on va parler pas que de séparation, oui, évidemment. Merci, vous restez avec nous, vous écoutez Bien fait pour vous sur Europe 1. On vous délivre aujourd'hui notre ordonnance, nos conseils pour que vos vacances en famille, au contraire, hein, en couple, se déroulent dans une atmosphère apaisante, joyeuse et sans trop de disputes. L'été 2022 sera le plus paisible grâce à nos conseils. Donc moi, je vous le conseille, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bien sûr, dans votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question, comment ne pas s'entretuer en famille et en couple pendant les vacances? On vise en tout cas cet objectif grâce à nos expertes invitées en studio. Cécilia Como, psychanalyste spécialiste du couple et sexologue clinicienne, ainsi que Isabelle Payot, psychologue, dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Alors Isabelle, est-ce que éviter finalement les conflits, ça passe pas quelque part quand même par l'organisation? Ça va plaire à Julia.
Bah, j'adore ça.
Planifier, ça permet d'éviter les conflits, surtout quand on part avec les enfants, ça peut générer beaucoup de stress. Donc est-ce que voilà, l'organisation, c'est pas la clé quelque part?
Oui, la préparation, c'est sûr que c'est un peu la clé pour savoir où on va, qui fait quoi aussi, comme disait Cécilia tout à l'heure, c'est pas toujours les mêmes qui doivent être au fourneau parce que tout le monde ne part pas à l'hôtel ou dans un all inclusive. Donc ça, c'est important. Par contre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de planification, parce que sinon on se retrouve avec quelque chose qui est serré, on étouffe, on doit suivre parce qu'à 10h il y a la visite de machin, à 15h on doit être dans la piscine, et ça, c'est source de conflit parce qu'il y a un moment, on n'en peut plus de suivre le ou la guide qui a décidé le timing des vacances pour tout le monde. Donc c'est un entre-deux, c'est-à-dire organiser dans les grandes lignes, fixer les règles de participation, et puis après, qu'il y ait un peu de souplesse pour se détendre.
Donc,
sinon, c'est
entre Julia qui est un tyran de l'organisation, non, et moi qui sois plus à la... et entre moi qui suis à la one again, on fait un entre-deux et je pense qu'on partira en vacances.
Oui,
on va, ça va, c'est super bien, Julia.
Mais vous savez que pendant les vacances, ouais, je lâche tout en termes de regard. Et c'est pas mal, effectivement, parce que ça permet d'entendre les besoins de chacun. Parce qu'il y en a qui veulent se réveiller tard. Alors comment c'est on fait ça, justement, avec les gamins qui veulent se réveiller à 11h du mat? On les laisse dormir jusqu'à 11h du mat?
Ça dépend. Les ados, à quelle heure se sont-ils couchés? C'est ça la question. C'est qu'il va falloir faire vivre des rythmes différents. Quel âge ont les enfants? Est-ce qu'il y a des grands-parents, pas de grands-parents, etc. Donc, c'est des situations qui sont à chaque fois singulières. Mais c'est vrai qu'on va peut-être décider qu'à midi, on se retrouve tous à table et on laisse de la latitude comme ça. On va se fixer des points dans la journée. Mais quand c'est trop rigide, c'est pas tenable.
C'est pas mal ça, juste au moins un rendez-vous un peu obligatoire, un peu fixé, ça aide effectivement.
Le midi et l'apéro, par exemple. Et
ça, j'aime beaucoup cette idée-là.
Et pareil, Cécilia, en couple, quand on part à deux, on décide à un moment donné de se parler dans la journée ou on passe ses vacances chacun de son côté? C'est quoi le secret?
Le milieu, Julia, toujours le milieu. Alors, l'idée, c'est quand même qu'il faut comprendre que le couple, c'est pas un corps à deux têtes. Et les vacances, ça sert aussi à la fois à se retrouver avec l'autre, mais à se retrouver aussi avec soi-même. Donc si on fait l'impasse sur l'un des deux, va y avoir forcément une plainte qui émerge. Soit j'ai pas eu de temps pour moi, soit on n'a eu aucun temps en couple. Et moi, j'aime bien effectivement l'idée d'Isabelle de créer des pôles, enfin des moments de rencontre. Et sur les couples, moi je pense que c'est à ça finalement que servent les rituels. C'est-à-dire que quand on a des enfants, évidemment, comme on marie au nez, c'est compliqué d'avoir du temps de couple. Mais il ne s'agit pas d'avoir du temps de couple qui dure des heures. En fait, en réalité, par rapport à ce qui se passe aussi dans notre chimie du cerveau, il faut pouvoir partager une émotion agréable avec quelqu'un. Ce n'est pas obligé de passer, il n'est pas obligé de rester une heure à faire quelque chose ensemble. Mais si on décide de se lever plus tôt que les enfants pour regarder un lever de soleil ensemble, si on décide de se donner un quart d'heure et de mettre les enfants de côté pour aller regarder ensemble un coucher de soleil. Si, voilà, l'idée quand même, et c'est très biochimique, c'est de
fixer des rendez-vous aussi finalement avec son amoureux.
Oui,
quoi,
c'est ça les rituels, c'est d'avoir ce temps. On sait bien qu'il va y avoir des enfants. Donc la question, c'est d'essayer de grappiller des moments, mais pas des moments où on va, pas des moments vides. Il faut que ce soit des moments où on partage ensemble une émotion agréable.
Bon, s'en débarrasser, mais tranquillement, c'est ça,
et bien organisé.
Isabelle, moi, j'ai envie de parler de choses très pratiques, hein, parce que ça m'angoisse beaucoup à l'arrivée des vacances. Quand on a, par exemple, 8 heures, voire 11 heures de voiture ou des longs voyages en avion qui s'annoncent pour partir sur son lieu de vacances, qu'est-ce que vous nous conseillez comme, en termes d'activité? Franchement, moi, j'ai tout épuisé avec les enfants, mais on ne peut pas y échapper. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous avez des astuces, des idées à nous proposer?
Moi, j'invite les parents à ne pas être des géos. Ce n'est pas eux les gentils organisateurs. Ils peuvent penser à voir, est-ce que tu as rempli ton sac avec un coloriage, un crayon de couleur, machin, etc. Et de temps en temps, c'est bien aussi que les enfants fassent l'expérience du « on ne se téléporte pas de chez nous aux vacances ». Il y a un truc qui s'appelle le principe de réalité. On voudrait ne pas leur faire vivre ça. Mais on peut leur expliquer avant en disant « tu vois, pour arriver sur notre lieu de vacances, voilà ce qui va se passer. On va devoir rouler un long moment ». Et donc, peut-être que ça sera pénible, il y a des moments où vous allez dormir ou autre, mais qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant ce temps où on ne va pas pouvoir arrêter la voiture quand on roule, etc. Donc, moi, j'aime bien les faire participer.
Et vous avez raison, parce que moi, je suis à court.
Voilà,
en fait,
c'est ça. Hein, et souvent, ils ont des bonnes idées. Ils savent quoi faire, ils se racontent des blagues, ou ils font. Bref, ils se débrouillent aussi, parce que sinon, ça rajoute une charge mentale. Est censé être en vacances, il faut qu'on organise tout. Donc, de prévenir, de dire on va devoir aller à l'aéroport et là on attendra un long moment, ça va peut-être être un peu long, est-ce que tu prends un petit livre, etc. D'impliquer, de responsabiliser aussi.
Et
ça
de prévenir finalement, de prévenir les gamins de ce qui va se passer.
Exactement.
De ce qui va se passer, ouais.
Et de dire on arrivera à telle heure, on pourra être à l'hôtel, dans la maison de vacances, etc.
Tu pourras te baigner dans la piscine à 18h.
Oui, à 23h.
Exactement. Alors Cécilia Como, vous avez des conseils, vous, pour les jeunes couples qui vont peut-être passer leurs premières vacances d'été ensemble? Est-ce qu'il y a des astuces pour que les premières vacances au moins nous laissent un souvenir mémorable?
Alors les souvenirs mémorables des vacances, si vous regardez bien, sont des souvenirs de vacances où tout ne s'est pas passé comme prévu en fait. Donc le conseil, c'est de laisser de l'imprévu, de ne pas tout planifier et de faire en sorte que tout ne soit pas hyper confortable. Parce que c'est justement quand les gens se souviennent en couple de vacances extraordinaires, en général, c'est quand même des moments qui, au départ, étaient assez ratés. La location, on n'a pas pu rentrer dedans, on a fini la nuit dans la voiture, tu te souviens, sur l'aire de parking, on a mangé des chips. Ouais. Et on me raconte que ça, et donc je vois bien que ce qui nous crée des souvenirs, et on revient sur l'idée des émotions, en fait. Il ne faut pas que ce soit lisse. Donc moi, j'ai toujours tendance à leur éviter. Alors ça demande plus d'imagination, mais c'est exactement la dynamique du couple et de la sexualité, l'imagination. Mais c'est d'éviter quelque chose de lisse et qui aurait déjà été préparé pour eux sans accroc dans les hôtels, les choses comme ça. C'est effectivement d'essayer quelque chose de plus rock'n'roll, parce que ça, ils risquent effectivement de s'en souvenir très longtemps.
Et ça, c'est valable pour les enfants aussi, parce que moi, j'ai des souvenirs, Isabelle Payot, vous allez me dire si je suis normale, mais un des meilleurs souvenirs de vacances d'enfance que j'ai, c'est des vacances où on arrivait dans une maison de location et on n'a pas eu d'électricité pendant 2 jours. On était à la bougie, et j'ai des souvenirs géniaux avec mes frères et sœurs, des bougies, mes parents ont mangé, enfin c'était génial. Donc même avec les enfants, tout ne doit pas être organisé, et des vacances ratées, c'est parfois des vacances en fait encore plus réussies.
Oui, ou c'est pas à l'endroit où on pense que ça va être bien. J'ai des amis qui écoutent cette émission et donc ils vont se reconnaître, qui avaient fait des vacances super avec leurs enfants, et au retour ils décident, ils ne faisaient jamais, ils disent on va s'arrêter sur une aire d'autoroute pour pique-niquer. Eh bien, c'est ce souvenir-là dont les enfants se souviennent en disant « Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ?»« J'ai pique-niqué sur l'aire d'autoroute. » Waouh !
Génial, voilà. Ça.
Donc, c'est ce qui sort de la routine, c'est des petits imprévus, effectivement, des incidents, des choses qu'on ne fait pas d'habitude et qu'on va faire, et qui tout d'un coup mettent du piment, de la saveur, ça fait rentrer de la surprise dans la vie.
Et puis là, on parlait des jeunes couples, mais à l'inverse, il y a des couples qui ne vont pas super bien avant de partir en vacances. Est-ce que ça peut sauver un couple de partir ensemble, alors même qu'il est déjà en crise, ou est-ce qu'au contraire, le face-à-face peut empirer les choses, Cécilia ?
Alors, quand on part en vacances et qu'on est déjà en crise, effectivement, je pense qu'il ne faut pas miser sur les vacances. Il y a deux types de crises, en réalité. Il y a des crises qui sont plutôt contextuelles et qui sont liées au stress, qui sont liées, en fait, à un quotidien extrêmement chargé.
Donc là, ça peut marcher.
Et là, ça va marcher. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour beaucoup de gens au confinement. Mmh. Une fois qu'on leur a enlevé leurs 2 heures de transport aller-retour et qu'il y a eu beaucoup moins de stress, franchement, il n'y avait plus besoin de thérapie de couple.
Certains se sont retrouvés.
Ah, mais complètement.
Et d'autres, au contraire, se sont déchirés.
Et le problème, c'est que que quand on est sur une crise relationnelle, c'est pas le lieu qui va faire la différence. En fait, il y a quelque chose dans la relation qui dysfonctionne. Et effectivement, il y a de fortes chances que ça dysfonctionne aussi pendant les vacances. Ça, pour le coup, on l'emmène. Autant le stress, comme disait Isabelle, on l'emmène puis on le laisse sur place 2-3 jours après être arrivé. Autant le problème relationnel avec le ressentiment de choses qui se sont mal passées dans l'année, ça, on n'est pas, il n'y a pas une espèce de reset dans notre cerveau juste parce qu'on arrive en vacances.
Isabelle, évidemment, nos enfants, on les adore et on a envie de passer du temps avec eux, mais on a vu que souvent, c'était aussi le point central un peu de problème entre les conjoints. Est-ce que c'est une possibilité, si on a un peu plus qu'une semaine de vacances, mais d'envisager de les envoyer au moins, je sais pas, on a 15 jours, une semaine chez les grands-parents, puis une semaine en famille, parce qu'on a besoin de se retrouver avec son conjoint? On a le droit, enfin, je veux dire,
mais c'est pas qu'on a le droit.
Sans être des parents indignes, quand on a que 15 jours de vacances.
Si on a la possibilité de le faire, il faut le faire absolument. Il faut vraiment avoir de l'air, quoi. C'est-à-dire se dire, je peux déposer mon rôle de parent, je vais le déléguer aux parents, marraines, grands-parents, etc.
Mais Ira, là, les enfants, parfois, ils disent, t'as que 15 jours cet été, tu nous largues.
Oui, mais tant pis. Il vaut mieux ça plutôt que d'être les uns sur les autres et de se disputer, qu'il y ait trop de conflits et que la relation commence à être abîmée. Il vaut mieux prendre de l'air et que eux vivent une autre vie ailleurs et que nous, on puisse respirer, sortir, se retrouver, se faire un petit dîner, ou etc.
Pour les parents séparés, c'est plus compliqué, moi je vous le dis. Hein. Oui. Parce que quand vous avez votre enfant une semaine sur deux et les vacances, en fait,
la culpabilité si vous ne le prenez pas avec votre fils.
Bah oui. C'est plus difficile, non?
Oui, c'est plus difficile, mais c'est vrai qu'alors dans ces cas-là, il faut profiter de la semaine où il n'est pas là pour faire la bombe.
Il y a toujours un moyen, effectivement. Eh bien, merci à toutes les deux. Bien fait pour vous et de retour très vite avec d'autres conseils pour survivre à vos prochaines vacances en famille. Car parfois, il est bon tout de même d'avoir prévu quelques stratagèmes avant pour que tout le monde s'entende bien, les petits, les ados, les amoureux. On va vous donner encore des tas d'astuces. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. On fait le point sur les vacances en famille qui approchent pour les plus chanceux. Alors comment faire en sorte qu'elles se déroulent paisiblement, sans dispute? Comment satisfaire tout le monde sur le programme, les activités? On détaille tout cela avec nos invités, Cécilia Como, psychanalyste, spécialiste du couple et sexologue clinicienne, ainsi que Isabelle Payot, psychologue dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Isabelle, est-ce qu'on ne se met pas justement un peu trop la pression en vacances parce qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde, que tout le monde passe un bon moment ensemble? C'est pas un peu too much? Est-ce qu'il faudrait pas être tout simplement beaucoup plus égoïste?
Oui, il faut surtout être beaucoup plus relâché, parce que c'est vraiment cette idée de perfection, de performance, c'est-à-dire que les vacances doivent être super réussies, il faut surtout qu'elles soient instagrammables en ce moment. Et donc ça, c'est trop de pression, parce que à la moindre déception, à un petit grain de sable, on va être déçu, ça va pas bien se passer. Donc faut aussi penser à soi, c'est-à-dire que tout le monde, au bout du compte, à la fin des vacances, il faut que tout le monde revienne en se disant, j'ai pu me reposer, ou j'ai vécu un moment super. Il faut pas qu'on vienne en se disant, c'était vraiment pénible, je suis super contente de retourner au travail parce que là, je ne peux plus me les voir en
ou
peinture.
Alors, c'était très bien organisé.
Oui, c'est génial.
C'est comme quand on dit, oh, elle est gentille.
C'est ça. Ils étaient très gentils.
Cécilia, même question, les vacances en couple, c'est pas obligé de ressembler à chaque fois à la lune de miel bis. C'est pas grave si tout n'est pas extraordinaire, on n'est pas hyper amoureux, câlin, toutes les vacances, quoi.
C'est mieux si ça n'est pas extraordinaire, comme je le disais. D'abord, qui vise l'extraordinaire a priori est souvent déçu, et c'est souvent après qu'on juge l'extraordinaire des vacances qu'on a passées. Et puis, comme le disait Isabelle, c'est le meilleur moyen pour que ça ne fonctionne pas, c'est d'avoir une attente absolument démentielle de vacances parfaites pour rentrer et être déçu.
Mais alors justement, vous croyez pas, Cécilia, aussi qu'il y a une pression sur la sexualité en vacances, avec toutes ces magazines qui vous expliquent que vous allez vous éclater pendant des heures et des heures?
Quand il y a des enfants, non, hein, clairement.
Non, mais
dans les enfants en vacances, c'est pas la lune de miel.
Non, mais oui, voilà. Alors ça, c'est vrai. Et je pense que encore une fois, c'est oui, il y a moins de stress. Oui, on travaille pas. Est-ce que c'est bénéfique au désir? Bon, c'est pas le soleil qui fait le désir. C'est la relation qu'on a avec l'autre. Donc si on passe son temps à s'écharper parce qu'on a l'impression qu'on fait toutes les tâches et que l'autre en fait beaucoup moins, ou qu'on est complètement happé par les enfants, évidemment qu'il n'y aura pas plus de désir à ce moment-là. Donc c'est le moment, puisqu'on a une charge en moins qui est le travail, de s'organiser, comme on disait, toutes, de manière à avoir du temps de partage ensemble, même petit temps. C'est là que le désir va aller puiser ensuite.
Cécilia, je demandais tout à l'heure à Isabelle si on avait le droit d'abandonner nos enfants chez les grands-parents. Est-ce que pareil, on a le droit d'abandonner son mari ou son épouse et partir quelques jours seul avec des copines, même quand on est amoureux hein.
Enfin, mais c'est très sympa et surtout ça vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle qu'on est des êtres autonomes et que le couple n'est pas le pourvoyeur principal de plaisir. En tous les cas, je ne pense pas qu'il faille que ce soit comme ça. Et donc, de se rappeler qu'on a moyen autour de nous de prendre beaucoup de plaisir seul ou avec des amis. Et c'est tout à fait sain. J'ai presque envie de dire, ça serait plutôt l'inverse qui pose question. Si vous n'avez que votre couple comme source de plaisir, c'est le problème des ruptures. C'est que s'il y a rupture, ça va être un drame.
Alors, moi, je connais des gens qui s'appellent Mélanie Gomez et qui partent souvent en vacances. Et parfois, ça part en live parce qu'elle m'a raconté qu'elle se retrouvait à gérer tout toute seule, les courses, les repas, les activités. Comment on fait pour que, justement, ce ne soit pas toujours la même personne qui fasse tout, le ménage, par exemple, Isabelle ?
Exactement ce que vient de dire Cécilia, c'est-à-dire autonomie. Donc chacun devient autonome, il n'y en a pas un qui
Moi je précise que c'est parce que souvent je pars sans mon mari aussi avec mes enfants, donc je me retrouve de fait à tout faire. Mais c'est vrai qu'à 13 ans et 4 ans, ils pourraient peut-être m'aider en fait.
À 4 ans, les enfants, ils peuvent aider à ranger les courses, ils peuvent aider à préparer à manger. On fait ensemble, on pense toujours qu'on va faire les tâches quotidiennes et ça c'est très pénible et ensuite on aura du temps de plaisir. Non, faisons ensemble. Voilà, participons. D'abord, à 4 ans, ils aiment bien. À 13 ans, ils aiment un peu moins.
Oui, j'allais dire, à 4 ans, c'est pas trop un problème. Voilà, mais le 13
ans, ils aiment un peu moins. Mais on leur a fait comprendre avant que c'était bien. Mais juste de partager les tâches, parce que c'est juste et c'est normal. Et du coup, on va trouver du plaisir dans le fait d'être ensemble, de se marrer, de préparer un bon repas sympa ou de... Voilà, on autonomise un maximum, comme ça on n'a pas toute la charge, enfin Mélanie Gomez n'aura pas toute la charge sur ses épaules.
Donc je peux rappeler à mes enfants que ce sont des vacances pour tout le monde, y compris pour moi.
Absolument.
Cécilia, vous êtes d'accord avec ça? Pas de charge mentale pendant les vacances, on y met tous un peu du sien. Vous avez des astuces, vous, pour mettre en place dans le couple, par exemple, là, un partage équitable des...
Déjà, c'est de le prévoir avant, parce que ce qui souvent est un échec absolu, c'est une espèce de spontanéité qui dit on verra, on s'organisera. Et très souvent, c'est vite vu, c'est-à-dire que la personne qui est le plus en charge de manière générale durant l'année va se retrouver. C'est quand même rare qu'elle se retrouve la moins en charge à ce moment-là.
Et c'est souvent la femme, soyons honnêtes, même s'il y a des hommes très bien qui participent à tout, hein, mais c'est pas le cas. C'est plus souvent les femmes.
C'est souvent, mais vous voyez, elles font ce que vous faites avec votre fils, c'est-à-dire qu'elles elles prennent la charge d'eux sans impliquer l'autre, parce que peut-être c'est ça être une bonne maman. Je vous rappelle juste que votre fiston sera en couple un jour et que
il m'a promis hein, pour que jamais.
Il y a des chances qu'il soit en couple et que par conséquent cette autonomie là, elle est hyper importante pour lui parce que sinon il y a de fortes chances qu'il attende de l'autre, homme ou femme, peu importe, qu'il se comporte comme un parent bienveillant et fasse pour lui et prenne en charge, voire même organise des vacances qui soient plus orienté vers lui que vers l'autre. Donc, faire comprendre qu'on est plusieurs êtres humains, plusieurs individus, c'est pas une question d'âge.
Exactement. Bien parlé, Cécilia. Alors, on n'a pas encore parlé d'un sujet épineux pendant les vacances, c'est l'argent. Est-ce que justement, Cécilia, vous avez des conseils? Est-ce qu'on en parle avant? Est-ce que ça se prévoit? Parce que, notamment pour un jeune couple, ça peut être une source de conflit, tout ça. Ou pire, quand on part avec des amis, tout ça, le coup du frigo, hein, qui met quoi dedans?
Qui paye? Oui, oui.
Alors, ça, j'ai eu, et du coup, enfin, j'ai entendu parler de ça, donc je me suis, en fait, finalement, quand on réfléchit sur ce qui n'a pas été, je pense que la première chose, c'est d'être extrêmement clair sur le budget que l'on a pour ses vacances et de pouvoir dire, moi, je peux mettre ça max, c'est-à-dire que je ne pourrais pas aller plus loin.
On le dit à son conjoint, mais on le dit aussi à ses amis avec qui éventuellement on part.
C'est de pouvoir vraiment avoir une idée claire, parce que si c'est ensuite pour rentrer et travailler, ce qui arrive souvent, pour rembourser les vacances...
ça gâche le plaisir.
Voilà, exactement. Donc la première chose, c'est d'avoir vraiment clairement un budget et de dire, voilà, moi c'est les vacances, j'ai tant. La deuxième chose en couple, ce qui me paraît hyper intéressant, c'est de faire un pot commun. De définir ensemble le budget et ensuite de dire... voilà, moi je mets tant, toi tu mets tant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça évite de faire des comptes d'apothicaire en rentrant. Moi j'ai des couples qui me racontent, on a fait des bonnes vacances, et puis j'ai pris le cheval pour la petite, et puis j'ai fait faire ça au petit, etc. Mais quand on est rentré, on a fait des comptes, et c'est vraiment des comptes d'apothicaire. Oui, mais ça, c'était pas prévu dans le budget, c'est toi qui l'as décidé. Et c'est la meilleure façon d'être, un, très déçu, et deux, de gâcher énormément le plaisir qu'on a pris.
Oui, il y a des applis maintenant, des applis qui sont super entre amis ou même en couple, où on va rentrer au fur et à mesure ce que chacun a dépensé.
Ah, c'est bien
et
ça.
À la fin, on sait exactement qui doit quoi. Donc moi, quand je pars en vacances avec les amis, on met ça en place et à la fin, on dit bah, le couple untel doit 14,42 euros à untel.
Les comptes d'apothicaire se font tout seuls automatiquement.
Ça se fait
donc
au fur et à mesure, comme ça, on ne se prend pas la tête au fil du temps. Tu as payé quoi ? Hop, je le rentre dans l'appli, tu as payé quoi ? Et
c'est
ça
pas
se fait
mal,
tout
ça.
Seul.
C'est vite de s'embrouiller.
Moi, j'ai une question quand même qui me trotte dans la tête aussi, c'est est-ce que cette année j'achète des cahiers de vacances ou pas ? Parce que ça les occupe. Non, vous êtes contre Isabelle ?
Non, moi j'en ai ras le bol des cahiers de vacances.
Moi, ils me les demandent.
Non, non, il faut arrêter les cahiers de vacances. Trouver autre chose. Le cahier de vacances, ça... ça rassure les parents. Alors, il y a les enfants qui demandent, qui disent, moi, je voudrais...
Mais moi, j'adorais, j'en faisais trois par été. Oui. J'adorais ça. C'était donc mon moment préféré
Mélanie,
des vacances.
On est d'accord que c'est vous qui adoriez les cahiers de vacances.
Oui, j'avais un problème.
Et que vos enfants ont envie de vous faire plaisir. Non, il y a plein d'autres façons de faire réfléchir son enfant. On peut dire, tiens, on va à tel endroit. On va partir à quelle heure ? Où est-ce qu'on s'arrête ? On va faire réfléchir sur le trajet. Il y a plein de façons de faire réfléchir. D'apprendre. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants apprennent.
Mais moi, je
veux
pas qu'ils oublient les conjugaisons. Alors, on fait comment pour les conjugaisons ?
Cécilia.
Mélanie, vous partez en vacances avec un enfant, pas un élève. Chacun son rôle. Nous, ce sont nos enfants. Et quand vous êtes en vacances avec eux, ils ne sont plus des élèves.
Oui, mais en deux mois, ils ne vont pas devenir débiles. Hein. Ils vont même rester intelligents.
Ça dépend.
Oui, c'est vrai.
Juste un truc, Isabelle. Parfois, on part avec des couples, ils ont des enfants qu'on trouve insupportables.
Ah, oui, ça oui.
Et c'est, comment on fait
Eh bien, on fixe les choses au départ. Moi, je trouve que on est sur des familles rétrécies, là, des familles nucléaires, alors qu'avant, c'était le village qui s'occupait des gosses. Donc on se met d'accord sur le principe qui est que si ton enfant ou si le mien fait quelque chose qui ne va pas, je t'autorise à lui dire. Et donc on a les enfants comme dans une famille élargie et on ramène sa fraise si on voit que le fils des amis ne se comporte pas bien.
Ou c'est souvent le fils des amis parce que les nôtres ils sont parfaits.
Oui, les nôtres sont toujours très bien. On est concernés, on vit ensemble, on fixe des règles pour vivre ensemble. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas le prendre sur soi. Puis après, le soir, dans la chambre, dit « Ah, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a dit, c'est insupportable. » Parce que sinon, on emmagasine de la rancœur, c'est jamais bon.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout pour vos conseils de survie pour ces vacances en famille. Elles seront belles, normalement, grâce à vous. Je rappelle vos ouvrages respectifs. « Le couple parfait n'existe pas », paru chez Flammarion. Et « J'élève mon enfant du mieux que je peux », aux éditions Erol. Merci à vous deux.
Merci.
À suivre, ce sera notre séquence tendance dans quelques minutes avec monsieur Julien Soulier, ancien professeur de français. On va enfin comprendre pourquoi on prononce le mot monsieur et non monsieur, comme ça s'écrit en français. Et puis Margot Grossman va nous proposer des alternatives au sucre. Il y en a de plus en plus à notre disposition. Mais attention, elles ne se valent pas toutes. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. On démarre maintenant notre partie consacrée aux tendances. Et pour cela, il y a déjà Margot Grossman avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, une chronique sucrée, mais sans sucre en même temps, à proprement parler. Hein, c'est
du
ça
bon sucre, que du bon sucre.
Donc pas de sucre blanc, pas de sucre blanc. Roux, ça sera d'autres choses.
Voilà,
hein, c'est
je vais
ça.
Vous proposer des alternatives.
Allez,
eh
parfait.
Bien, merci.
Merci Margot, vous restez avec nous. On va commencer par la chronique de Julien Soulier. Bonjour Julien.
Bonjour Mélanie, bonjour Julien.
Bonjour Julien. Alors, vous êtes un ancien prof de français, vous êtes formateur et expert du projet Voltaire. Et donc aujourd'hui, avec vous, on va s'interroger sur la prononciation du mot courant, monsieur. Pourquoi on ne le prononce pas comme il est écrit ?
Oui, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, ce mot monsieur, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose quand même de bizarre. Alors je voulais commencer avec vous d'abord par une séquence émotion. Mm-hmm. Est-ce que vous avez déjà vu partir, vous, dans le soir ? Le train comme ça, emportant celui que vous aimez loin de vous.
Oui.
Vous laissant triste et solitaire sur le quai, comme
oui,
ça, toute seule. Oui, et ben, c'est ce qui est arrivé à notre orthographe et à la langue française. Voilà, notre orthographe est restée pauvre et solitaire sur le quai de gare, tandis que la prononciation a pris le TGV de la modernité.
C'est une belle image, je trouve, c'est vrai. Hein.
Vous voulez dire que l'orthographe est en retard par rapport à la prononciation ?
C'est exactement ça, Julien. Et de nombreux mots, en fait, nous le prouvent, et pas forcément les mots compliqués. Par exemple, le mot « monsieur » dont nous venons de parler. Si on y réfléchit bien, nous, francophones, on se dit « monsieur, on y réfléchit, on n'y pense même plus ». Et pourtant, imaginez un instant ce que doit ressentir un étranger qui apprend que « monsieur », ça s'écrit « mon sieur ».
Eh bien, moi, il me semble que sa réaction doit ressembler à peu près à celle que nous aurions devant un épisode bien gore de Game of Thrones, croisé éventuellement avec le film L'Exorciste.
C'est vrai que c'est pas logique.
C'est pas logique. Et ce monsieur, donc, est vraiment un mot horrible à écrire, parce que finalement, rien dans sa prononciation ne nous indique comment l'écrire.
Bon, d'ailleurs, alors, d'où vient-il ce mot monsieur ?
Eh bien, monsieur, c'est un mot très ancien, c'est un des plus vieux mots de la langue française, qui est en fait la soudure du déterminant possessif mon ma mère, mon, et sieur, qui est issu du latin senior, qui signifiait en latin plus âgé ou assez âgé. Mm-hmm. Et d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, monsieur ne s'employait que pour s'adresser avec respect à un homme de bonnes conditions sociales. Et puis ensuite, ça s'est généralisé pour tous les messieurs. Mais quand on y réfléchit bien, finalement, étymologiquement, quand vous dites bonjour monsieur à quelqu'un, eh bien vous lui dites bonjour mon vieux.
J'adore l'idée. En fait, on est assez mal poli. Hein. Mais alors, comment est-ce qu'on explique justement cet écart entre l'écriture et la prononciation ? Déjà, est-ce qu'il y a une explication ?
Eh bien oui. Spoil, il y a une explication.
Génial.
Oui, en fait, au Moyen-Âge, il faut savoir que notre langue était phonétique. C'est-à-dire, on disait monsieur. Alors vous imaginez une langue phonétique, hein, c'est-à-dire au dictée, tout le monde 20 sur 20.
Génial.
Bon, à l'époque, on ne faisait pas de dictée, et puis il y avait peu de gens qui savaient écrire ou lire. Mais en tout cas, imaginez les élèves d'aujourd'hui transposés il y a 5 ou 600 ans, eh bien, ils auraient tous eu 20 sur 20.
Ça veut dire qu'on prononçait tout, c'est ça ?
On prononçait toutes les lettres. Par exemple, le roi chante, on disait Leroy chante.
D'accord.
Donc on prononçait vraiment toutes les lettres. Donc, pas de problème d'orthographe à l'époque. Et en fait, c'est après, évidemment, que ça s'est gâté, puisque ce qui s'est passé, c'est que de nombreuses consonnes qui étaient prononcées ont fini par devenir muettes. On a arrêté de les prononcer. Mm-hmm. Vous pensez peut-être à des mots dans lesquels il y a encore automne, compte, C-O-N-P-T-E, sculpteur. Il y a encore plein de lettres muettes. Eh bien, ça remonte à peu près à cette époque-là, à partir du XIVe siècle, où on a arrêté de prononcer ces lettres muettes. Et donc, on a arrêté, en l'occurrence, eh bien, de prononcer le R final.
Et justement, est-ce qu'il y a d'autres exemples de cette bizarre disparition du R ?
Oui, eh ben, il y en a à peu près 9300.
Ah oui,
j'ai compté, ce sont les verbes du premier groupe, puisque si vous réfléchissez bien, vous dites bien chanter et pas chanter.
Parler, pas parler.
Et pourtant, à l'époque, par exemple, le verbe chercher se disait chercher. Et ça rimait avec cher.
Eh bien voilà, vous avez résolu le mystère du R de monsieur, donc pas monsieur. Et pour le mon, prononcer me.
Alors pour le mot prononcer me, il y a eu plusieurs prononciations qui ont été en concurrence. On a eu d'abord, on a eu évidemment le mon, donc qui était phonétique. On a eu le mou, donc on a dit moussieux à une certaine période. Mm-hmm. Et puis on a dit aussi mossieux. Et là, il suffit de reprendre un des ouvrages linguistiques que nous possédons tous.
De référence. Hein.
De référence, qui s'appelle les albums d'Astérix. Et quand vous pensez justement à Astérix qui se dispute avec Obélix, ben, eh bien, qu'est-ce qui se lance à la figure ? Ils se disent « Monsieur Astérix, Monsieur Obélix ». Eh bien, c'est un reste de cette prononciation de l'époque.
Oh là là, mais on comprend bien mieux les BD grâce à vous, c'est incroyable. Mais ça n'explique pas quand même la prononciation moderne monsieur.
Non, et en fait, il faut savoir que cette prononciation « monsieur », qu'on utilise donc aujourd'hui, qui est la seule prononciation en fait encore en cours, eh bien, elle est récente, elle date du 19e siècle environ. Enfin oui, on date du 19e siècle. Donc d'abord, ça s'est prononcé « mon », puis « mot » ou « mou ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette syllabe-là s'est affaiblie. Alors pourquoi s'est-elle affaiblie ? Eh bien, quand vous dites monsieur, en général, vous faites suivre d'un nom, donc monsieur Dupont, par exemple, et donc c'est le mot Dupont qui est accentué.
Oui.
Donc ça veut dire que le mot monsieur, finalement, lui, n'est plus vraiment accentué, et surtout sa première syllabe, puisqu'en français, on accentue souvent la dernière syllabe d'un mot. Vous ne dites pas la révolution.
Non.
Sinon, on a l'impression que vous avez mangé une pizza. Vous dites la révolution.
Oui.
Donc on dit monsieur, donc c'est cieux qui est accentué, et on dit monsieur Dupont. Donc c'est Dupont le mot important. Et donc la première syllabe étant très faible, elle a eu tendance à s'affaiblir. Ah. Et quand ça s'affaiblit, ben, finalement on prononce « e », qui est moins difficile à prononcer que « on », qui est moins fort. Et on se retrouve avec monsieur. Et donc
voir monsieur.
Et voilà. Et la dernière étape qui a lieu aujourd'hui dans la langue populaire, c'est qu'elle est tellement faible, cette syllabe, qu'elle a complètement disparu, et que finalement, on dit monsieur Dupont. Bonjour monsieur.
C'est génial. J'adore comprendre tout ça. C'est génial, hein. Bon, bah écoutez, c'est super.
Et pour le mot femme, vous n'avez rien ? C'est pour la parité, pour le mot femme ?
Alors, j'avais pensé effectivement à respecter la parité avec le mot femme, mais peut-être pour une autre émission.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, hein, Julien.
Merci
pour toutes ces précisions. Grâce à votre mise au point, on va pouvoir crâner, hein, comme on dit, dans nos prochains dîners. Et bien justement, dans nos prochains dîners, j'espère qu'il n'y aura pas trop de sucre. J'en peux plus du sucre. Mais heureusement, Margot Grossman, je crois que vous avez des solutions aujourd'hui.
Oui, alors aujourd'hui, on déclare la guerre à l'ennemi public numéro 1, la plus vicieuse des drogues, la plus addictive des poudres. J'ai nommé le sucre et plus particulièrement le sucre blanc raffiné. Ah oui. Donc je vais vous proposer des alternatives sucrées nettement meilleures pour nous, hein, histoire de remplacer ce grand méchant loup, parce que pas question d'être dépendant, mais on a quand même le droit d'être gourmand après tout.
Bah oui, mais c'est tellement dur de ne pas être accro au sucre. Il y en a partout. Margot, pourquoi c'est une drogue comme ça? C'est quoi concrètement le problème du sucre blanc?
Alors le problème, c'est qu'on en consomme beaucoup trop. Hein. En France, 35 kilos par personne et par an quand même, contre 20 kilos pour la moyenne mondiale. Et vous avez raison, il y en a partout. Hein. Il se cache dans les sauces, les plats préparés, hein, même salés. D'ailleurs, c'est la substance addictive la plus consommée au monde. Pourtant, aucun intérêt nutritionnel, au contraire. Et c'est cette surconsommation en fait qui va avoir des effets néfastes sur notre corps et sur notre cerveau. D'ailleurs, c'est la première cause de maladies comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Et trop de sucre va aussi ralentir l'activité du cerveau, donc altérer la mémoire, créer des sautes d'humeur, générer fatigue, confusion, stress, dépression.
C'est bon, on arrête.
Bah ouais, mais en fait, tout ça, c'est à cause des variations brutales de glycémie dans le sang. En fait, ça augmente d'un coup en nous donnant l'illusion d'un pic d'énergie immense, et puis ça retombe aussi vite, suivi d'une nouvelle envie de sucre. Du coup, bah, ça perturbe complètement l'organisme.
Ça, on a compris. Ça veut donc dire qu'on est tous, on est tous addicts ou pas?
Mais oui, mais on n'est pas tous addicts. Mais le problème, c'est voilà cette sensation de manque en fait pendant les sevrages aussi. C'est aussi pour ça qu'on va pouvoir l'apparenter à une drogue. En fait, comme la cocaïne ou d'autres drogues dures, le sucre, il va faire sécréter de la dopamine au cerveau, donc ça va nous donner une sensation de plaisir immédiat et ça va activer le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc en fait, plus on en a, plus on en veut. Donc bah, cercle vicieux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette étude américaine. Vous savez, ils avaient mis des souris face à de la cocaïne et une boisson sucrée. Et en fait, ils se sont rendus compte que 94 sur 100 avaient largement préféré le goût sucré à la cocaïne. Enfin, ça fait réfléchir, vrai. Mais bon, après, c'est comme tout. Hein. C'est une question de modération parce que le corps a quand même besoin de glucose, hein, mais du bon. Et heureusement, bah, certains aliments vont offrir les avantages du goût sucré, mais sans les inconvénients du sucre blanc.
Mais alors, quels sont les aliments qui viennent à notre rescousse, Margot?
Alors, l'idée, ça va être de revenir à la nature en remplaçant le sucre industriel raffiné par des produits naturellement sucrés, puisqu'ils vont non seulement préserver tous leurs bons nutriments, mais aussi minimiser les pics de glycémie et le sentiment addictif qui est lié au raffinage. Alors, par exemple, on a les dattes, hein, entières ou en sirop. Mmh. Alors, on va pouvoir y penser pour remplacer le sucre dans les yaourts, les smoothies ou les desserts sans cuisson. En plus, elles sont pleines de magnésium, de fer, de vitamines et de fibres, donc ça cale et c'est bon pour le transit. Alors, on a aussi le sucre de fleur de coco, lui, il vient de la fleur du cocotier.
Très bon.
Il est
ça.
Très écologique, plein de nutriments, de prébiotiques. En plus, il a un indice glycémique très bas, 25, mais avec un fort pouvoir sucrant, donc on va pouvoir en mettre beaucoup moins que le sucre blanc. Et pareil pour le rapadura. Alors lui, il va être super dans les gâteaux, le café, les confitures aussi, puisqu'il va épaissir sans problème. Et le muscovado, avec son petit goût de caramel vanillé. D'ailleurs, il va être top pour caraméliser les plats salés. Alors, on peut aussi se tourner vers le miel d'acacia, parce qu'il a un indice glycémique de 35, donc très bas, ce qui n'est pas le cas des autres miels. Bon, après, évidemment, il faut abuser d'aucun sucre, hein, quel qu'il soit. Sauf peut-être de mes super aliments.
Ah bah justement, c'est quoi, je les vois devant moi, c'est quoi ces super aliments dont on peut abuser?
Alors, vous rappelez, je vous avais parlé de la miraculine, je lui avais consacré une chronique. Donc c'est
on avait fait même
baie.
Un test là, on l'a mis dans la bouche et tout ce qu'on mangeait derrière c'était sucré.
Voilà, vous avez tout résumé.
J'en ai même acheté pour les vacances pour faire des tests avec les copains pour les épater.
Trop bien. Ouais, donc ça dure une trentaine de minutes et on a du coup la caroube qui est très riche en fibres. Alors elle, c'est une fève qui vient de Crète et elle va permettre de réduire le sucre et la farine dans toutes les recettes avec son petit goût de caramel chocolaté. En plus c'est un coupe-fin naturel, donc elle va aussi aider à contrôler notre poids, ce qui est quand même plutôt rare pour un produit sucrant. Et on a la loukouma aussi. Alors c'est un fruit qui vient d'Amazon, qui est très riche en vitamine B. Et comme la caroube, elle va permettre de sucrer tout en épaississant les préparations. Et elle a un petit goût d'abricot vanillé. Donc elle va être super dans les crèmes desserts, les smoothies, les compotes ou les pâtisseries. Et le meilleur pour la fin, alors, c'est le sirop de yacon. Alors vous pouvez goûter, hein, ça vient du Pérou. Et c'est une racine qui ressemble à une grosse patate douce dont on va en fait extraire le jus.
Julia, elle a ouvert tous les trucs là.
Hein. Allez-y.
Qu'est-ce qu'elle goûte là, Julia?
Alors, donc c'est le sirop de yacon. Donc en fait, on en extrait le jus pour en faire une sorte de caramel. Donc c'est un édulcorant, donc il y a très peu de calories. Et ça a un petit goût entre le miel et le sirop d'érable.
Ah oui, ça me plaît.
C'est top. En plus, il est très riche en prébiotiques pour la flore intestinale. Et il a un indice glycémique de 1, c'est tout. J'ai pas trouvé mieux.
Non, sérieux ?
Ouais,
c'est quasiment nul, quoi.
C'est quasiment
rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Soulier ?
C'est très bon et très sucré.
Ouais, on a une sensation de vraiment beaucoup de sucre.
Ah oui.
Oh là là, c'est incroyable.
Ah non, mais c'est génial.
Plutôt
c'est
que
génial.
Moi, je mets du miel dans mes yaourts.
Ça, c'est un index glycémique 1. Un seul.
J'ai l'impression que c'est plus sucré que du sucre. C'est incroyable. Bon, génial. On les trouve où, ces super aliments?
Alors,
pour remplacer le sucre blanc?
On peut les trouver chez Sol Semilla. Alors, c'est à Paris, dans le 10e. Ou sinon, vous allez directement sur leur site internet sol-du6semilla.fr. Alors, du coup, vous pouvez tout goûter.
Alors, il y en a qui n'ont pas suivi là.
Sol-du6semilla.fr.
Ok.
Et du coup, bah, ils nous ont gâtés, ils nous ont donné de la caroube, du loukouma, du sirop d'yacon qui existe aussi en poudre. Et on a aussi leur pâte à tartiner.
Moi, je veux dire, qu'est-ce qu'elle mange encore, Julia là, ouais. Elle goûte tout en premier,
alors, ça, c'est
pas juste.
Pâte à tartiner au sucre de fleur de coco et cacao cru, donc c'est un délice.
C'est très, très, très. Allez, bon. Tenez, Julia, on le prend pour nous aussi. Goûtez la pâte à tartiner, hein, sinon Julia va tout finir. Hein.
Bon, moi, ça me fait la bonne petite transition pour vous partager ma recette avec leurs produits, hein, pendant que vous les goûtez.
Est-ce que ça peut remplacer la fameuse pâte à tartiner pleine d'huile de palme?
Absolument. Et je vais vous proposer une petite recette de pâte à tartiner, justement, si vous voulez. Alors, elle est prête en une minute. Elle est sans sucre raffiné, mais elle est pleine de bons super aliments et avec seulement 4 ingrédients. Alors, dans un petit pot, on va simplement mélanger 2 cuillères à soupe de purée de noisettes ou d'amandes avec 2 cuillères à soupe de sirop d'yacon ou de sucre de noix de coco. Donc, le sirop d'yacon, vous venez de le goûter.
C'est très bon. Hein.
Et à ça, on ajoute une demi-cuillère à café de caroube et une cuillère à soupe de poudre de cacao maigre. Et en fait, ça nous fait une super pâte à tartiner express qu'on peut aussi manger à la cuillère pour les plus gourmands. Et ça nous permettra de pallier aux envies de sucre blanc et de se faire plaisir beaucoup plus sainement.
Ben moi, j'ai adoré là, ce petit truc sirop de yacon.
C'est top.
Julien Soulier valide, Julia aussi. Merci beaucoup, Margot. Et merci à Sol Semilla. On retrouve la recette de pâte à tartiner et plein d'autres sans sucre, bien sûr, sans sucre blanc, bien sûr, sur votre blog www.amasauce.com et votre Instagram margot-amasauce. Voilà, voilà, on y est. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Bien fait pour vous, sera de retour demain à 11h. Et Julia, on aura quoi au menu demain ?
Eh bien, écoutez, on va rester dans un sujet vacances, encore une fois. Aujourd'hui, on a parlé de comment contenter nos enfants en vacances. Eh bien, demain, on va s'intéresser à nos animaux durant cette période estivale. Comment faire en sorte qu'ils restent en forme en été ? Comment les faire garder, ou bien est-ce que c'est si compliqué que cela de les trimballer avec nous dans nos aventures? Il existe aujourd'hui effectivement des solutions dont on vous parlera demain dans Bien fait pour vous.
En attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à présent c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour, quel est le programme?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous dans Europe Midi. On va parler de beaucoup de sujets d'actualité, évidemment, comme tous les jours, et notamment de la ville de Nice, de la métropole de Nice plus précisément, qui a décidé de rendre à nouveau obligatoire le masque anti-Covid dans les transports en commun à partir de lundi prochain. Tiens, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? On va en parler avec vous. Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On sera également avec la députée Renaissance Cécile Rilac et avec le député RN Julien Odoul. Voilà le programme. À tout de suite.
Merci beaucoup Romain. À tout de suite.